Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et ce soir, Juliette, nous recevons...
Le collectif Précipité. Donc, il y a Jean-Baptiste, Pierre-Vincent et Joachim qui sont là, qui vont nous présenter un bouquin qu'ils viennent de faire paraître chez Kiasma Sud, qui s'appelle « Dans la frontière, une expérience documentaire dans un centre d'hébergement d'urgence parisien ». On adopte un dispositif un peu particulier pour l'émission de ce soir, puisqu'on voulait faire entendre en fait une première expérience documentaire que vous aviez faite à partir de ce même foyer, qui était un montage audio, un travail audio, un parcours dans la ville avec des résidents du foyer. Donc on va entendre ça juste après, mais peut-être avant vous pourriez présenter le collectif, quoi, nous dire un peu qui est ce collectif Précipité.
Donc moi c'est Joachim. Le collectif Précipité, bon, c'est toujours un petit peu difficile de définir parce qu'il se redéfinit un peu différemment à chaque projet. Mais disons qu'il réunit des gens qui font du documentaire, qui font des films, de la radio, des livres, mais pas seulement. Il y a aussi, disons qu'autour de chaque projet, il y a d'autres gens qui viennent nous voir, par exemple. Dans ce cas-ci, pour le projet Dans la frontière, il y avait Élise, qui est juriste, qui a beaucoup travaillé avec nous. Voilà. Donc, ça se redéfinit un peu à chaque projet. Alors après, il y a des choses qui sont importantes dans la manière dont on travaille. À chaque fois, disons qu'il y a d'abord l'idée de prendre le temps de travailler, de prendre le temps de s'installer dans un lieu et... dans ce lieu, de constituer une sorte de collectif qui serait fait de nous, mais aussi de tous les gens qui passent dans ce lieu. Et à partir de là, commencer à faire ce qu'on appelle une expérience documentaire. Ça veut dire que tout, des questions qu'on se pose, de la forme qu'on va mettre en place, toute l'expérience s'élabore à partir d'un travail collectif réalisé dans un lieu. Donc quand je dis des temps longs, c'est 3, 4, 5, 6 mois, ce qui est le cas de ce projet-là. Voilà un petit peu les choses sur lesquelles, la façon dont on travaille.
Et vous avez fait, juste pour présenter rapidement, d'autres projets documentaires avant celui-ci ?
Ouais, donc un des projets importants qu'on avait réalisé auparavant, c'était un projet qu'on a réalisé au Burundi. Le Burundi, c'est un pays jumeau du Rwanda qui a connu, comme le Rwanda, des problèmes. Moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais similaires au Rwanda. Et donc, l'idée, c'est qu'on s'était installé dans une école pendant 3 mois, et qui était une des seules écoles qui avait continué au moment de la crise, à travailler avec des élèves Hutu et Tutsi. Et donc on s'était installé dans cette école, et puis on avait, à partir pareil de projets d'atelier, on avait fait une sorte de film, là le projet c'était un film, de faire une sorte de généalogie du conflit, en partant, disons, de la mémoire de tous les élèves qui étaient présents dans cette école. Voilà.
D'accord. Là on va... tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Baptiste ?
Juste pour dire, effectivement, par rapport à ce qu'on va entendre là maintenant, que c'est une partie du travail effectivement dans le foyer, et c'est même quelque chose qu'on a fait récemment, qui n'était pas seulement, disons, un résultat qui a été donné dans le foyer. C'est des parcours de sonores qui ont été faits et qui ont donné lieu aussi à une installation dans les lieux du foyer Emmaüs. C'est des extraits de ce travail qu'on va entendre.
Et peut-être justement expliciter un tout petit peu plus ce qu'on va écouter pendant cette prochaine demi-heure. Très rapidement, parce qu'on va revenir sur le travail que vous avez effectué, la manière dont vous l'avez fait sur ce foyer, mais juste introduire en fait ce qu'on va écouter.
En fait, moi c'est Pierre, ce qu'on va entendre, c'est correspond un peu à la dernière partie, disons, un peu conclusive du travail qu'on avait mené à l'intérieur du foyer Emmaüs, et qui était partie d'une question qu'on avait posée aux hébergés avec qui on travaillait, qui était de nous indiquer des lieux où la question de la frontière, dans sa matérialité la plus forte, continuait de se poser à eux dans la ville. Des lieux qui continuaient à marquer leur séparation du territoire par-delà leur présence ici. Et donc, c'est ce dernier, donc cette dernière étape du travail, donc a consisté à sortir du foyer, donc précisément aux heures de fermeture du foyer, pour les suivre. Ils ont été nos guides dans cette ville qu'on redécouvrait littéralement sous leurs pas. Et donc, ce qu'on va entendre, c'est une tentative pour cartographier, disons, une géographie de, à la fois de l'errance, de la mobilité contrainte dans une ville comme Paris aujourd'hui, pour des personnes sans papier, demandeurs d'asile. Voilà, et donc, c'est ce qu'on va entendre maintenant.
Alors, dis-moi, Myriam, c'est quoi les horaires du foyer Emmaüs ?
Bien, c'est 8 heures pour sortir et 6 heures pour rentrer le soir. 18 heures. Mais bien sûr, quand on travaille, c'est très bien. Moi, quand je travaillais, j'étais là en décembre, janvier, je crois. C'est très bien parce que ça me pousse à aller au boulot. Mais sinon, si c'est pour errer toute la journée, c'est un peu trop tôt.
Le métro jusqu'à Gare du Nord, je change, je prends le RER B jusqu'à Châtelet. Ensuite, je change de Châtelet à la Défense parce que le métro est lent. Aujourd'hui, je suis un peu retard parce que c'est ma montre qui n'avait pas sonné, mais j'ai entendu d'habitude, je me lève à cette heure-ci. Et je me suis levée brusquement, comme ça. Parce que j'ai l'habitude, quoi. J'ai l'habitude de me lever tôt. Cinq heures moins 20, le matin, je prends le bain. Je me déjeune même pas. Je prends pas mon... Sinon, je serai en retard.
Plein de contraventions, bon, c'est pas de mon faute, moi aussi. Alors, si on suit le plan légal, je travaille pas, j'ai pas de quoi acheter un ticket. C'est pas parce que je veux pas travailler, c'est parce que j'ai pas le droit de travailler, c'est comme ça. Si je travaille, là, je peux dire, bon, si je fraude le métro, moralement même, ça me donne des remords. Bon, là, je travaille pas. Et il me faut que je me déplace. Tu veux que je le fasse comment? Je vole comme un pigeon. J'ai pas d'aile. Mais faut bien. C'est que ce soit le métro ou le bus. C'est comme ça.
Je peux pas rester comme ça sans vivre, sans manger ou bien pour mes besoins, quoi. Ça fait pas longtemps. Tout juste pour vivre. Je fais le ménage le matin.
quoi, c'est un bouton, on fait la descente. Là, on va aller au cyber. Ça fait quelques informations qui vont sortir du bled, quoi. Donc, c'est comme ça. Je ne vais pas lire le tout parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous allez voir, bon, ça aussi c'est une raison pour pousser les gens à venir subir une frontière pareille. On est dans la frontière, pas sur la frontière, mais dedans. C'est devenu large, une frontière c'est une ligne.
Je fais les tables, je fais en bas par terre, je nettoie par terre, j'enlève les poubelles, tout ça, et nettoie les vitrines. Les vitres, quoi, les portes, tout ça. C'est un cybercafé. Un cyber, là où on fait les internet, tout ça, c'est là-bas.
Je viens souvent dans le coin là parce que je vois plus de monde, surtout qu'on regarde aujourd'hui. Le soleil s'annonce, tu vas voir, les gens s'y vont venir, c'est presque l'été. Ça me permet de ne pas beaucoup réfléchir à ma situation, ne pas faire péter les plombs, quoi. Mais en tout cas, je sais que c'est pas éternel. Ça, j'ai ça en tête et j'ai l'espoir de faire changer ma situation coûte que coûte. Je veux vivre, je veux retourner une vie normale. Je veux dire que ça, c'est pas une vie. Regarde, je marche avec les gens. Toi, tu fais ton boulot. Moi, je fais quoi ici? Je te parle. C'est pas mon boulot, ça. Tout ce qui court. Chacun va dans son travail. Moi, je vais où? Vadrouiller, c'est tout. Guinéen qui a créé ce site, qui vit aux États-Unis. Et à travers lui, on reçoit les informations du bled à tout moment. Voilà. Bon, là, on est au cyber de Ezi, c'est à Châtelet. Donc, je viens souvent bon, pour discuter, bon, parce que mes amis aussi se connectent, soit au bled, soit ceux qui sont dans les autres pays. En Allemagne ou en Hollande ou aux États-Unis, parce que nous on a plus, bon, on dit que c'est moins cher ici, on a plus de temps, on parle, on se communique, on se donne des nouvelles, on se rapporte, on dit ce qui se passe de l'autre côté du bout du monde. Comme on ne peut pas rester tout le temps au téléphone, c'est comme ça. Je viens très souvent ici, trop même, presque tous les jours, si je n'ai pas de walk au black, donc je reste ici, quoi. Bon, si je n'ai rien à faire, je n'ai pas de programme ni rien, je peux m'asseoir ici à partir de 8h et quitter vers 22h, 23h. Je peux passer toute une journée.
Ah, non, bon.
Ça va,
Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va tellement qu'on n'a pas de travail, donc ouais. On n'a pas où aller. Je préfère venir ici sur Internet, de visionner les journaux, de voir des trucs intéressants, mieux que de passer ma journée à se balader dehors, tu vois. Donc comme ça, je me renseigne sur pas mal de choses, quoi. Tout simplement, nous sommes des demandeurs d'asile territoriaux, donc on n'est pas autorisé à travailler, tu vois. Donc pour trouver un job en noir, c'est difficile, quoi.
C'est difficile, c'est pas bien payé, c'est risqué en même temps.
Ouais. D'ailleurs, ça m'est arrivé, j'ai travaillé en noir, le patron m'a escroqué, quoi, il m'a pas payé.
C'est de l'arnaque. Tu travailles, mais tu payes pas. Il te dit à chaque fois la fin du mois et la fin du mois, il part. Il change de numéro, il change tout. Tu ne connais pas la personne, tu travailles dans les chantiers, dans le bâtiment. Tu fais quoi alors? Malheureusement, on est dans une situation délicate, mais en espérant que ça va changer. Si Dieu le veut.
Non, c'est ouais. Pas si Dieu il veut, mais si le gouvernement français
non,
veut,
non,
quoi.
C'est Dieu.
Mais comment? Ah non. C'est Dieu, c'est à part, quoi.
C'est Dieu le veut.
Oui, c'est quand tu vois là, c'est l'une des meilleures villes côtières d'Algérie, du monde, c'est pas.
C'est des vieilles cartes de Gijel qui témoignent de l'époque coloniale.
Quoi. C'est ici où étaient les Turcs 4 siècles ici. Ouais. On a un très beau pays, hein. Mais malheureusement c'est à cause de ces richesses qu'on est ici.
Moi j'habite là. Là c'est juste à côté où j'habite. C'est pas assez. Moi j'habite jusque là. C'est juste à côté.
Ouais, comme ça c'est la route. Les falaises et tu trouves là.
Tu peux pas grandir là ça.
Non, tu peux pas la grandir. Hein ça de vivre dans des paysans, c'est passionnant.
Voilà. Si on se retrouve entre amis, on peut consulter la presse gratuitement. Enfin presse gratuitement, on peut se connecter. Tchatcher avec les gens, enfin chacun son truc, quoi. Chacun son goût. En plus, c'est un lieu où tu peux facilement rencontrer un ami. Quoi. Ici, pour nous, les cafés, les bars, c'est inaccessible parce qu'on n'a pas les moyens, mais ici, on peut facilement bavarder pendant des heures. Quoi.
Baccalauréat scientifique 89, diplôme d'état d'infirmier 93, Batna Algérie, formation école paramédicale Algérie, durée de la formation c'est 3 ans, de 91 à 93, niveau d'études c'est Bac plus 2, expérience hôpital CHU de Batna en qualité d'infirmier 93-98, dans les services suivants. Service des urgences chirurgicales, 12 mois. Service bloc opératoire, 12 mois. Service de cardiologie, 12 mois. Service chirurgie femme, qualité de chef de service, 24 mois. Au niveau de la PC, mairie de Batna. Service d'hygiène, 8 mois. Ça, c'est des fois, j'ai fait des CV pour envoyer au niveau des hôpitaux, la DAS. Des fois, je déposais mon dossier, dossier administratif. Je dépose mon dossier comme ça pour faire des efforts, pour voir les formations au niveau administratif. Je sais, je n'ai pas le droit de travailler, je n'ai pas le droit de faire une formation, mais tellement, j'ai fait comme ça. J'ai fait semblant, ça veut dire psychologiquement, j'ai fait comme ça. Pourquoi j'ai fait des efforts, j'ai déposé mon dossier là, juste pour garder le moral. J'ai fait semblant pour garder le moral. Ouais. Non, toujours, parce qu'on est toujours à l'espoir.
Voilà, les deux derniers mois sont sur papier ici. D'accord. Puis le restant, bulle 82, sur microfiche. Et vous avez aussi la possibilité de les consulter sur nos ordinateurs. Mmh. On a les versions numériques.
D'accord. Non, sur le journal, c'est... C'est les deux...
Les deux derniers mois, ouais, c'est ça, c'est les lois et décrets. D'accord. Donc là, vous avez celui du 18 mars, enfin du 16 mars, dimanche.
D'accord. Voilà. Voilà. Merci, je vous remercie. Bien.
Okay.
Merci. Donc là, c'est dimanche 16 mars 2003. Ça, c'est le dernier, sur le numéro 64. Numéro 64. Numéro 64. Ça, c'est le numéro 63. Donc ça, c'est le dernier. Journal officiel de la République française. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Pour les candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé pour l'exercice de cette profession en France.
Attends.
Je vais aller direct à la source d'informations, ça veut dire la source de... des articles, la source de est-ce que j'ai le droit de faire une formation, est-ce que j'ai le droit de travailler ou pas. C'est ça que je vais aller direct à la source. Voilà. C'est comme ça, il y a toujours des lois qui sortent, donc c'est pour ça que je suis intéressé par le journal officiel. Donc à chaque année, il y a des changements des lois, donc c'est pour ça. Donc là, j'ai tout comme l'article, qu'est-ce qu'elle a demandé, j'ai tout. Moi, le problème, c'est la carte de séjour. Donc là, j'attends toujours. J'attends.
Cherche jeune femme pour enfants. De 16h à 21h, parlant bien français, sachant cuisiner, le soir, loger, référence exigée. Très urgent, merci. Urgent, recherche personne très sérieuse, avec référence, parlant bien le français pour s'occuper de deux enfants, 3 et 6. 3 ans et 6 ans, plus repassage, tâches ménagères, lundi, mardi, jeudi et vendredi. 30 heures, semaine sur 4. Ici, c'est le quartier Neuilly. Donc, il y a des publicités en face de moi. Tu viens, tu regardes les affiches. Il y a des numéros de téléphone, tu prends, tu appelles avec la personne, si vous avez d'accord, tu commences à travailler, c'est ça. Parfois, la personne peut te prendre et de ne pas te prendre. Tu as vu ici, il a même demandé une fille parlant bien français, cherchant cuisiner le soir, loger. Donc, c'est beaucoup, mais tu es obligé de faire ça.
Des fois, sur l'annonce, ils écrivent qu'ils exigent des références et des papiers en règle et tout, mais ils disent non, on a fait ça tout simplement pour... mais on cherche quelqu'un non déclaré, en noir. Et ils profitent de la situation parce que des fois, ils prennent plusieurs rendez-vous avec plusieurs personnes. Et puis, ils vont chercher celle qui va demander le moins. Pourquoi? Parce qu'elle est, elle n'a même pas de quoi manger ou de s'habiller. C'est pour ça qu'elle va accepter n'importe quoi. Pour moi, c'est de l'esclavage. Quoi. La plupart des dames qui viennent ici, ils n'ont pas de papier. Il y a 95% qui viennent ici qui n'ont pas de papier. Moi, avant, je n'avais pas de papiers. Et puis, quand j'ai eu mes papiers, j'ai pensé que je vais travailler facilement, je vais avoir du travail facilement, mais j'arrive pas à trouver un travail qui est stable. Je travaille avec une association.
Tu sais, sans papier, c'est plus facile parce que tu trouves des pour garder des personnes âgées, pour garder des enfants, pour ménage, pour tout. Et en fait, quand les papiers, hasta ce moment, 6 mois, et je n'ai pas de travail. Je travaille en noir quand même. Faire ménage, repassage, je garde une personne âgée la nuit. Parce que je tiens 12 enfants ici.
Bonjour, madame. Je cherche du travail. J'ai vu votre annonce affichée sur le kiosque. Je te rappelle plus tard. À quelle heure? Pardon? Allô? À partir de 17h. D'accord. Oui, merci, au revoir.
Il y a beaucoup, il y a des maghrébines, il y a des africaines. Et les derniers temps, il y a des pays de l'Est, les polonaises, les russes. Et j'ai vu même la dernière fois une tchétchène qui est venue chercher du travail. Il y a pas mal de nationalités. Je viens de temps en temps pour voir. Il y a des fois, ils font des annonces. Ils te donnent des rendez-vous, des entretiens. Ils te posent pas mal de questions. On dirait qu'ils demandent la nationalité de la personne. Ils exigent soit des Philippines. Ils ne veulent pas des... Ils veulent surtout des Philippines ou des Polonaises qui parlent pas bien le français. Tu vois, elles réclament pas. Elle fait, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? Elle réclame pas, elle fait un boulot à 1000 francs, elle dit rien. Si vous jetez un coup d'œil, vous voyez avec vos propres yeux, vous voyez. La première question, c'est de quelle origine? Si vous, je suis fière d'être algérienne, je dis directement, je suis algérienne. Donc, ils mettent, par exemple, elle te demande pourquoi vous êtes ici, c'est-à-dire cherche à comprendre, vous voyez, c'est la situation sécuritaire et tout, donc elle mélange tout. C'est-à-dire, en principe, elle cherche quelqu'un de sérieux, avec expérience, je suis d'accord avec elle, mais elle cherche l'origine, elle cherche, je ne sais pas, les parents, c'est pas...
Quand ils demandent, vous êtes de quelle nationalité, vous êtes de quelle origine, je ne sais pas moi pourquoi ils demandent ça, je ne sais pas. Et moi, ça me dérange quand ils me demandent, même si je suis d'une autre nationalité, ben ça me dérange quand ils demandent vous êtes de quelle origine. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Il y en a même qui prennent des dames là, sur place. Ils viennent chercher, ben ils les prennent sur place. Ils commencent même dans le jour même à travailler chez eux.
Oui, parfois il y a des gens qui viennent personnellement voir les filles et discuter avec eux s'ils sont d'accord pour travailler avec eux. Si vous êtes d'accord avec vous, tu commences le travail. Si vous n'êtes pas d'accord, vous attendez un autre. C'est comme ça.
Il faut attendre. Là aussi, c'est l'attente. Allô, Ndjara. Combo. Waka, ça va? Comme il me bat pour ma balle. C'est là. Allez. Ça va? Et à l'école, ça marche? Un peu. Ah, petit, du courage, faut te battre. Hein. Et ton grand-père, il est où? Ah, tu l'appelles pour moi alors? Là, c'est mon père. Ici, c'est totalement hardcore, ça va être chaud. Il va gronder. Allô? Allô, on dit à l'ambaba? Non, attends. Non. Non. Yantung. On en l'est. On a ou non? Ah. Et. Yantung. Alhamdulillah, Menegali. Ah. Ça va, ça va. Ah, menene boude. Menene boude. Hein? Alors non faire là avant tout beni nyama quoi. Gonga soso ben beki geli mutima. Donc ça ku si vous à la mako darota. Eh joni na sera ni parce que bon météo on hala nange yalta bon nange yalta are sa yalti no bu vitro. Ah ouais. Bon, ne battons dans quelques semaines, arrêt, ils verront l'année, quoi. Ah, Johnny Meden, Johnny Meden a bien. Comme elle l'a dit, comme faux, frère, que Aden a dit faux, donc. Meden, Johnny a bien. Comment? Ah, Johnny, quand même, un abo. Johnny, quand même, oh, récépissé, 3 mois, 3 mois. Le nom mais on le Jonathan même quoi chaque les butats il y a des renouvellements qui est dit maintenant bon il a été trop spirituel aujourd'hui quoi, du quoi il a dit bon le mouvement de truc d'évocation qui se passe actuellement est-ce que ça touche aussi la ville ou comme ça le charter qui est parti à Abidjan et à Dakar donc a vu ça il suit les informations quoi. Il dit qu'il suivait tout aussi les informations. Quand, lorsque j'appelais, il était dans sa chambre. Donc, il dit on parle toujours de l'immigration en France. Est-ce que c'est dur? Comment je m'en sors? Bon, il sait que je suis sans papier, ça c'est clair. Est-ce que il sait, là où je vis, je suis obligé de sortir à 8h et revenir le soir? Non, il ne sait pas. Est-ce que, bon, il sait qu'à chaque fin du mois, est-ce que je suis obligé d'être orienté, changer de maison, des trucs comme ça? Ça aussi, il ne le sait pas. Pour eux, là, depuis que je suis là, je suis dans une maison, c'est bon. Bon, par rapport au travail, c'est que j'ai pas le droit de travailler. C'est que j'ai pas le droit de travailler. Encore. C'est comme ça. Il m'a demandé, surtout la première fois que j'ai envoyé de l'argent là-bas, m'a demandé si c'est l'argent de poste avec lequel je suis venu ici ou bien si c'est quelque chose que j'ai fait pour avoir l'argent. J'ai dit, j'ai travaillé. Il m'a dit, où tu as pris ce travail? Tu n'as pas le droit de travailler, tu viens d'arriver, tu me parles de travail. Le jour-là, il a grondé, il a chauffé dur. Il m'a dit, non, je veux pas, c'est comme ça, vous allez rentrer dans les trucs, là, drogue et autres. Non, 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 non. Reste comme tu es. Faut pas forcer la situation, là. Quand tu appelles, il faut s'attendre à des nouvelles qui sont plus ou moins bonnes, quoi. Parce que je leur ai demandé comment ça se passe là-bas. Il dit, ah, petit, c'est la pire des choses. Ça fait 2 semaines, on n'a pas de courant. Il y a eu des émeutes tout récemment dans le quartier encore. Les prix de l'essence ont flambé là-bas, tout ça. Il dit, c'est pas facile.
Voilà, vous êtes toujours sur FPP dans les oreilles loin du front. On vient d'entendre donc une demi-heure de documentaire sonore qui a été fait par le collectif Précipité avec des résidents d'un foyer d'hébergement d'urgence. On vient d'entendre Mamadou qui est dans les locaux mais qui ne veut absolument pas intervenir à l'antenne. Il considère qu'il a déjà eu largement son temps de parole avant. Et donc on va parler avec Joachim, Pierre-Vincent et Jean-Baptiste. Peut-être avant de revenir précisément sur le son qu'on vient d'entendre, parler de comment vous avez, enfin quel travail vous avez fait, que, redéfinir un peu ça et puis comment vous êtes organisé justement, quelle était l'idée derrière ce boulot que vous avez engagé dans le foyer Emmaüs du 20e arrondissement.
Bon, mais pour raconter l'histoire un petit peu, d'abord il y a eu une rencontre en fait avec le directeur du foyer qui était un ami qu'on connaissait bien. Et puis, c'est vrai qu'on connaissait aussi bien ce lieu pour y passer souvent et qui suscitait notre curiosité du fait qu'il était occupé principalement par des gens qui venaient vraiment des quatre coins du monde. Et donc on lui a dit ouais, ce serait vraiment intéressant d'arriver à faire quelque chose là. Et il nous a tout simplement proposé, il nous a dit bon ben, je vais vous laisser une chambre et puis... vous allez faire ce que vous avez à faire dans cette chambre. Ça veut dire, alors on l'a transformé en un lieu de réunion, de réflexion collective. Et on s'y est installé pendant pratiquement 4 mois. Et vraiment, on était là tous les jours. Ça a été une expérience, on s'est plongé dans cette réalité-là. Et on n'a pas bougé de là pendant 4 mois. Alors au départ, on a commencé à organiser Bon, on est arrivé vraiment avec cette question de la frontière. On a proposé de mettre en place un atelier de réflexion collective autour de la notion de frontière. Bon, bien sûr, à dessein, hein, on savait que par rapport au parcours des gens, ils étaient, eux, de par leur vécu, à même vraiment de réfléchir à cette question. Et donc, il y avait vraiment l'idée à la fois de partager des récits, un vécu commun et le ressaisir et à la fois pouvoir y réfléchir collectivement. Donc on a commencé à organiser des débats sur différentes questions. C'était des débats qui avaient lieu toutes les semaines et qui chaque fois donnaient lieu à un petit journal qui était distribué dans le foyer. C'est important de le dire, c'est que étant donné que les gens qui sont là pour un mois, pour 15 jours renouvelables une fois, donc pour un mois maximum, on ne pouvait pas toujours travailler avec les mêmes gens. Il y avait toujours cette idée que les gens continuaient à circuler. Et nous, on essayait d'installer quelque chose de collectif. Et c'était de fait très difficile à cause des contraintes imposées par le foyer. Et ce journal a eu un rôle très important parce que justement, il permettait de créer une continuité. Ça veut dire de faire une sorte de passage entre les gens qui partaient et les gens qui arrivaient et que la réflexion se prolonge. Voilà, donc il y a eu ce petit journal qui s'appelait Les Chroniques du Foyer Monde. Ensuite, ou parallèlement, on a commencé l'idée est venue, puisque les choses s'élaboraient dans le cadre de cet atelier, de réaliser des entretiens. En fait, que chacun raconte avec minutie le départ... De son pays d'origine jusqu'à l'arrivée aux portes du foyer. Donc il y a eu cet élément-là qui était très important et qui s'est fait tout au long des 4 mois, bon, avec beaucoup de difficultés aussi. Et enfin, ce qu'on vient d'écouter, les trajets. Ça veut dire que tout au long des discussions, ce dont on parlait, c'était bien sûr du foyer, de ses contraintes, mais c'était aussi de tout ce qui se passait en dehors du foyer. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ça faisait déjà 3 mois qu'on était dans ce foyer et qu'on n'y sortait pas. On s'est dit, il faut qu'on y sorte. Et c'est là qu'on a proposé à un certain nombre des personnes avec qui on travaillait qu'ils soient nos guides dans ce qu'on avait appelé l'intériorité de la frontière. Qui était donc avec une chose très précise, c'était de nous amener sur les lieux où la frontière, pour eux, continuait d'exister. Et donc, on a passé avec 5 personnes toute une journée accompagnée d'une personne qui prenait le son. Et on a commencé à redécouvrir cette ville qu'a priori on connaissait ou on pensait connaître complètement différemment. C'était une sorte de ville parallèle. C'était, disons, une autre ville ou la même ville, mais régie par des règles différentes. Et c'est ça qu'on a essayé de raconter à travers ces trajets.
Et peut-être justement qu'on peut revenir sur certains de ces lieux frontières, comme vous les avez nommés, certains dont on a entendu, on a entendu le récit pendant ce montage, notamment par exemple le kiosque à journaux de Neuilly. Peut-être qu'on pourrait revenir un petit peu sur ce qui se passe, ce qu'est ce kiosque, ce qui s'y passe.
Donc le kiosque, alors. Voilà, bon, tous les trajets. Donc là, il y a deux personnes qui nous avaient amené au kiosque de nuit. Parce que, en fait, c'est un lieu très connu, notamment de toutes les femmes sans papier. C'est un lieu où on va chercher du travail. Et on sait qu'on en trouvera en général. Et donc là, on est arrivé, on nous a amené là et on nous a dit, voilà, ben là, je viens quotidiennement chercher du travail. Alors c'est un lieu très intéressant parce qu'il répond vraiment à trois choses qu'on a pu systématiquement observer. Et une de ces choses, c'est la question de l'invisibilité. Ça veut dire que quand on arrive sur cette place à Neuilly, il y a un kiosque à journée, quelque chose tout à fait banal, disons. Mais derrière ce kiosque à journaux, il y a des centaines de petites annonces qui sont déposées principalement par, disons, les riches femmes de Neuilly et qui cherchent des femmes de ménage, des gens pour garder leurs enfants, etc. etc. Et donc là, il y a cette chose très, très particulière qu'on est arrivé là et il y avait déjà une dizaine de personnes qui étaient en train de lire les annonces. Et c'est tout ce marché du travail qui était dans lequel sont pris les personnes sans papier qui se révélait. Alors, parmi les choses qui étaient les plus marquantes pour nous, c'était entre autres la question notamment de la concurrence qu'il pouvait avoir entre les personnes qui avaient des papiers et les personnes qui n'en avaient pas. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui venaient d'avoir leurs papiers et qui espéraient pouvoir commencer à travailler avec des contrats de travail, et notamment qui étaient importantes, notamment pour pouvoir renouveler sa carte de séjour, et qui, de fait, cette concurrence des personnes qui étaient sans papier, qui demandaient moins, et surtout, en général, on ne voulait pas donner des contrats de travail, se retrouvaient obligées à bosser au noir, et avec la possibilité, à la fin, de pas pouvoir renouveler sa carte de séjour. Donc il y a tout ce système complètement vicieux dans lequel elles étaient prises. Après, il y avait aussi cette façon dont le lieu était complètement tendu sur une sorte d'espace monde. Il y avait des gens, par exemple, sur la question... On était en plein moment où il y avait le conflit en Tchétchénie, ce qu'on nous a dit, c'est que quelques jours après que le conflit éclate, il y avait déjà des jeunes femmes tchétchènes qui arrivaient dans le lieu pour trouver du travail. Et c'est vraiment un lieu qui est dans cette tension, qui est connecté à cet espace-monde, et donc où s'y perçoit les événements qu'il peut avoir.
Il a l'air très, très institutionnalisé comme kiosque, puisque dans le bouquin que vous avez sorti, il apparaît que, y compris la mairie de Neuilly le recommande aux employeuses, aux bonnes citoyennes de sa commune, quoi, en disant qu'ils vont trouver du boulot sur place, et que même le kiosquier en a fait son petit business, quoi. Il en a fait un petit système que vous pouvez peut-être expliciter un peu.
Bah, sur cet aspect, c'est difficile de rajouter autre chose. C'est qu'effectivement, il y avait une utilisation de cet espace. Enfin, je ne sais pas quoi dire à part cette histoire de petit business. Ça, c'est ce qu'on a découvert grâce à l'enquête sur les lieux. Après, non, moi, ce que je voulais dire plus par rapport à ce que vient de dire Joachim, c'est la chose importante, c'est l'ambivalence aussi de ce type de lieu, parce que ce qu'on a effectivement appelé comme ces lieux de la frontière étaient toujours ambivalents, au sens où à chaque fois ils montraient une division extrêmement brutale donc de l'espace public, un lieu de séparation, et en même temps un lieu fonctionnant comme lieu de rassemblement. Éventuellement de rassemblements communautaires. Un autre lieu qu'on entend dans le montage, par exemple, c'est le cyber, qui est typiquement là, un lieu qui échappe à toute représentation victimaire, puisque c'était en gros un lieu où, alors maintenant il n'existe plus, mais où se retrouvaient énormément de sans-papiers sur Paris, tout simplement parce qu'ils pouvaient y rester toute la journée pour quasiment rien du point de vue de l'argent, et sans aucune exigence de contrôle ou quoi que ce soit, contrairement à toute une série de lieux institutionnels par lesquels ils passent, où il est toujours question d'identité. à appuyer, à démontrer. Par exemple, un lieu de ce type, c'est ce qu'on appelle les centres de domiciliation, un des lieux où on est passé également, qui consiste pour les demandeurs d'asile. Enfin, c'est une adresse pour les demandeurs d'asile qui leur permet d'avoir de recevoir du courrier dans leur contact avec l'administration française, mais qui en même temps, donc là, un lieu pour le coup souvent vécu assez négativement et comme un lieu de contrôle très fort. Et donc c'était important pour nous aussi de traverser ces lieux dans cette ambivalence pour ne pas tomber dans une représentation strictement victimisante, quoi, de la présence des gens avec qui on bossait dans la ville.
Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a vraiment la mise en place de véritables stratégies aussi, notamment par rapport à la nécessité de rester invisible. Le cybercafé, pour ça, était vraiment le très très fort. Et parce que c'est quoi, je me souviens très bien quand on est arrivé là-bas, il y a une personne qui nous a amené là-bas, il nous a expliqué, voilà, moi je viens souvent au cybercafé, d'abord parce qu'on paye pas, ou on paye 1 euro, on peut y rester la journée, contrairement à un café. Au moment où on a commencé à poser des questions, ce qui était très étonnant, c'est que la personne à côté a dit « Ah oui, mais moi aussi, je suis dans cette situation. » Et puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à discuter à 10 personnes. Et donc, on s'est dit que cet espace-là, tout d'un coup, qu'on essayait de décrire, était extrêmement peuplé. Où il y avait en effet beaucoup de monde qui résidait. Mais il y a vraiment en effet des stratégies très fortes. Par exemple, la question de la circulation... La circulation contrainte, c'est toujours cette nécessité de rester invisible. Et on voit très bien que dans l'espace public, s'arrêter à un moment ou un autre, c'est redevenir visible. Et donc il y avait toujours cette obligation de continuer à circuler, de continuer à faire comme si on avait un endroit où aller, que ça soit aller au boulot ou n'importe où, de continuer à faire semblant qu'on était pris dans le flux des passants qui vaquent à leurs occupations multiples. Et donc, je me souviens très bien Abby qui me disait que, par exemple, quand elle n'avait pas de boulot, elle prenait le PC et puis elle pouvait faire 5 fois le tour de Paris en restant dans le PC, parce qu'au moins là, elle savait qu'elle ne serait pas inquiétée, quoi. Elle avait son ticket et puis elle faisait le tour comme ça. Et elle circulait. Et c'était vraiment l'idée qu'il ne fallait pas s'arrêter. S'arrêter, c'était redevenir visible.
Mais non. Mais non. Réclamer, proposer, imaginer. Mais non. On a rêvé, rigolé, espéré. Mais non. Et défilé. Mais non. On a pleuré, supplié, exigé et menacé. Mais non. On a parlé, inventé, expliqué. Mais non, on s'est fait chier. Bon non. On nous a nié, renié, étouffé, assassiné. Mais non. On nous a fermé, bâillonné, humilié. Mais non. Éparpillé. Mais non. On a résisté, existé, continué. Tout en fierté. Ben oui. On va repenser, nous souhaiter bonne année. Ben oui. On va aimer. Ben oui.
Et voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles, loin du front. On est toujours avec le collectif Précipité pour parler du livre qui vient de sortir aux éditions Kiasma Sud et qui s'intitule « Dans la frontière, une expérience documentaire dans un centre d'hébergement d'urgence parisien ». On vient de parler en fait de tous ces lieux frontières qui sont extérieurs au foyer. Et on voit très bien à travers le récit que vous en faites, que ces lieux-là, que les trajets que font les résidents du foyer dans la ville sont très liés en fait aux contraintes propres du foyer, c'est-à-dire notamment des horaires de fermeture du foyer. Peut-être qu'on pourrait parler de ça, de ce règlement du foyer, de comment ce que vous disiez à l'instant en antenne, comment il s'inscrit en fait dans un maillage de différents lieux frontières.
Bah, la réalité, c'est pour cette raison que le montage commence par une sortie en fait du foyer où on entend la sonnette de ce lieu qui est en fait un ancien hôtel, qui était un ancien hôtel. Donc les horaires du foyer, effectivement, c'était, parce qu'on verra peut-être tout à l'heure que c'est en train de changer, des horaires de fermeture, donc de 8h du matin à 18h30 le soir. Et donc ce qui dessine un lieu extrêmement étrange, où, de fait, pendant toute la journée, le lieu est vide, il n'y a personne. Et qui, donc, ça, c'est le signe, disons, de cette structure dite d'urgence. Ce mécanisme d'urgence fonctionnant de façon totalement opposée et contradictoire avec, par ailleurs, aussi le principe d'accueil conditionnel qui gouverne ce type de lieu. Et donc, effectivement, pourquoi ce lieu nous est apparu au fil du travail très profondément lié à tous ces autres lieux frontières qu'on avait traversés et qu'on entend dans le montage, c'est qu'en fait, il s'inscrit dans une addition de contraintes et d'obstacles qui règlent extrêmement aussi la mobilité des gens dans la ville.
C'était il y a une chose importante, ça veut dire que on voit bien comment la question c'était de comprendre comment aujourd'hui la frontière disons quadrille l'espace social, et donc il y avait une sorte en effet d'addition de contraintes qui, pour le dire le plus simplement, même s'il faudrait le dire plus de façon plus complexe, mais c'est l'obligation de sortir du foyer parce que à 9h c'est le modèle exclusion insertion par le travail, donc des horaires calés sur l'emploi, mais bon, pour des demandeurs d'asile qui ont une interdiction de travailler, ça n'a plus aucun sens, donc ça oblige à rester toute la journée dehors, à circuler ou à essayer d'aller trouver du boulot au noir. Bon, après, il y a plein de choses. Mais lié à cet intérêt, donc c'est les horaires de foyer, plus l'interdiction de travailler, plus obligation de circuler, plus les contrôles dans le métro, plus... Il y a toute une série de contraintes qui s'additionnent de cette manière, qui constituent justement la matérialité de cette frontière. C'est une frontière qui est faite de règlements, de contrôles, de barrières mécaniques dans le métro, et c'est justement cette matérialité-là de la frontière qu'on a voulu mettre en place. Donc, mais bon, voilà, pour revenir sur la question du foyer en tant que tel et du travail qu'on a essayé de faire. Tout le travail qu'on a essayé de faire, ça a été en quelque sorte d'ouvrir le foyer à lui-même. Ça veut dire d'arriver à ce que les histoires des gens qui se croisaient dans ce foyer puissent se rencontrer et puissent dialoguer ensemble. Et donc parier sur le fait que c'était un lieu d'une grande actualité, une actualité au sens où c'était un lieu à partir duquel on pouvait vraiment, penser le monde tel qu'il était en train de se construire aujourd'hui. Et c'était vraiment cet élément-là qui était important. Et disons, durant toutes les discussions, ce qui était très fort, toutes les discussions qu'on a eues tout au long du foyer et qui ont donné lieu à ce journal, c'est que ce dont on a pris acte, c'était du fait de tout ce qu'on avait en commun. Et tout ce qu'on avait en commun, c'était notre langue ou nos langues communes, notre histoire commune, nos questions communes, par-delà à tous les kilomètres qui pouvaient nous séparer, disons, au début de notre existence. Et ce qui remettait complètement en question nos certitudes sur ce qui était, disons, d'ici ou de là-bas. Alors, au sens où, par exemple, prenons un exemple très concret, par exemple, Abby nous racontait, par exemple, que dans son pays, elle était mauritanienne, elle avait dû quitter son pays parce que, en tant que noire mauritanienne, on avait brûlé ses papiers, on l'avait expulsée. Parce que, bon, il y a eu une sorte de racisme institutionnel très fort vis-à-vis du noir, en disant que la Mauritanie est un pays arabe et qu'en général, les noirs étaient soit sénégalais, soit maliens. Bon, je vais très vite sur cette histoire. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'elle s'était retrouvée sans papier dans son propre pays. Et que il y avait en effet une crise des institutions là-bas avec un racisme très fort qui tout d'un coup nous interrogeait sur ce que il se passait ici en France. Et donc bon, après au regard de l'exportation du modèle national à l'ensemble du monde, il y avait comme ça des questions, notamment sur la question de la frontière, qui se posaient tout, de la même manière aux quatre coins du monde. Et commencer à dialoguer autour de ces différentes expériences de la frontière, ça devenait en effet une expérience qui déjouait toutes nos représentations.
D'ailleurs, effectivement, dans le bouquin, ce qui est assez frappant, c'est que tous les récits qui sont faits déjouent complètement toutes les raisons pour lesquelles les dernières réformes ont été faites, quoi. À savoir que les personnes qui parlent dans ce livre disent qu'elles viennent en France parce qu'elles connaissent déjà bien la France, qu'elles maîtrisent le français, qu'elles n'auraient aucune raison d'aller, je sais pas, en Italie ou ailleurs, qu'elles connaissent déjà, pour partie les lois du pays, etc. Et voilà, j'avais trouvé ça assez frappant par rapport justement à toute la rhétorique qui était mise en place autour de la langue, autour des visas par les récentes réformes, que ces récits singuliers en fait les démentaient complètement en fait les raisons mêmes pour lesquelles les réformes étaient faites.
Bah ouais, parce que si oui quoi. J'ai essayé de répondre à la façon dont toi le travail t'a questionné, mais de fait, comme je disais, il y a une sorte d'espace commun qui est issu de l'histoire coloniale, qui est issu même postcoloniale, de la mondialisation, disons-le comme ça, qui est là. Et que les questions et qu'il y a une langue commune souvent mais ça va même plus loin que ça. Ça veut dire, prenons l'exemple, moi je me souviens Myriam qui était la chose la plus forte. Elle avait vraiment c'était vraiment quelqu'un qui était né pendant la colonisation et son territoire d'existence et qui avait souvent fait des trajets entre la France et l'Algérie tout au long de sa vie. Et l'histoire, son territoire d'existence, c'était pas l'Algérie, c'était la France et l'Algérie. Et quand à un moment donné, on a fermé les frontières entre l'Algérie et la France, elle s'est dit il faut que je vienne en France. Hein, parce que, mais avec l'idée, en effet, d'avoir une carte de séjour française, non pas pour pouvoir rester en France, mais pouvoir retrouver son territoire d'existence et pouvoir circuler entre la France et l'Algérie. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, et pour elle, la fermeture des frontières, c'était simplement c'était une division identitaire, quoi. C'était une fracture qui était très profonde.
Les trajets excédaient complètement les règlements. Ouais.
Bon, décidément, une demi-heure, c'est extrêmement bref et c'est extrêmement frustrant aussi. Enfin bon, c'était important d'écouter le documentaire. On aurait bien aimé parler beaucoup plus longtemps avec vous sur ça. On peut redonner le rendez-vous à la librairie éphémère si jamais voilà, il y a des personnes qui veulent venir vous poser davantage de questions ou voir le livre en chair et en os. Guillaume, c'était tu nous avais annoncé
Cyrus Sorbier.
Ouais,
Cyrus. À 20h.
Mercredi à 20h, Cyrus Sorbier, donc au lieu dit. Et puis, sinon, vous pouvez aller sur le site de Chiasma pour voir ce bouquin. Et vous pouvez contacter le collectif Précipité par mail. Vous allez nous donner ça.
Collectif Précipité, tout attaché, sans accent. @nolog.org. Voilà, j'ai dit quelque chose.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées. We'll be right back.
Allez, voilà, c'est fini ce soir à la frontière, pour ne pas dire à la marge de la radio libre et indépendante. On retrouvait le collectif vaguement autogéré des visiteurs du mercredi soir. C'était Les Oreilles Loin du Front, avec ce soir, à la limite de l'explosion, une main sur la console, une main sur le détonateur et une main sur le pack de bière, Atomic Jérémy. Ce soir, à la limite du bon goût, il y avait déjà dans son panthéon René Binamé qui côtoyait Rosa Luxembourg, Patti Smith qui côtoyait Karl Marx, il y a maintenant les Brooters, juste à côté de Pierre Bourdieu, c'était Cédric. Et puis, à la frontière de l'autoritarisme, celle qui règne d'une main de fer sur une radio en béton, le tout sans jamais sourire de manière superflue, et en gardant la ligne, c'était Juliette. À la frontière du mutisme ce soir, il y avait Manuela. Et puis, à la frontière du malaise vagal, il y avait ce soir le petit communiste de la bande FM, le reporter qui ne reporte plus, le chroniqueur qui ne chronique plus, mais le toujours là, Guillaume Yaume. Alors, Les Oreilles Loin du Front, c'est aussi un site, une rediffusion, donc trois bonnes raisons de boire de la bière. Un site, c'est loldf.org, et la rediffusion, c'est tous les vendredis de 12h30 à 14h sur cette même antenne. Et voilà, c'est le moment de mobilité contrainte pour vos oreilles, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre, que toi tu meurs de froid, et que c'est l'heure de retrouver les Échos du Capricorne. Ciao.